Le journal des sports, c'est avec vous Clément Comte, bonsoir.
Bonsoir Yves.
Et pour commencer, un mot d'abord sur cette sensation au Mondial de Russie, l'Espagne éliminée.
De la Coupe du Monde, tout simplement, au tir au but face à la Russie, c'est une vraie surprise. C'était les huitièmes de finale, on y revient un petit peu plus tard, parce que l'actualité sportive aujourd'hui, elle est marquée par cette annonce des organisateurs du Tour de France. Ils ne veulent pas que Christopher Froome participe à la prochaine grande boucle. Le Britannique a été récusé par ASO à cause d'un contrôle antidopage anormal lors du Tour d'Espagne en septembre dernier. Une procédure a été ouverte là-dessus, mais le tribunal antidopage de la Fédération internationale n'a toujours pas pris de décision. Alors les organisateurs du Tour de France ont décidé d'agir, Fabrice Rigobert.
Oui, dans l'article 29.1 de son règlement, Amaury Sport Organisation, Clément se réserve le droit de refuser la participation d'une équipe ou d'un de ses membres dès lors que sa présence serait de nature à porter atteinte à l'image de l'épreuve ou encore à la réputation d'ASO. C'est sur la base de cet article-là, utilisé pour tenter d'écarter sans résultat le Belge Tom Bonnen en 2009, que le Tour souhaite donc exclure Chris Froome. Les organisateurs de la Grande Boucle estiment que le fait que le Britannique reste dans l'attente d'une décision après son contrôle anormal au salbutamol en septembre dernier sur le Tour d'Espagne pourrait nuire à l'image de l'épreuve. Depuis plusieurs mois, le patron de la Grande Boucle, Christian Prudhomme, sans vouloir juger le quadruple vainqueur du Tour, demande une décision pour éviter que Froome vienne gagner un cinquième tour avant de se voir privé de ce succès a posteriori si jamais il vient à être suspendu à cause de ce contrôle anormal, si le tribunal antidopage repousse tous les arguments de défense du coureur qui tente d'expliquer pourquoi on a retrouvé le double du seuil autorisé dans ces échantillons. Il reviendra donc aux trois juges de la cour arbitrale du Comité Olympique et Sportif Français de se prononcer avant la fin de la semaine, sans doute, après une audience prévue ce mardi à Paris. La Sky, qui a interjeté appel, se dit aujourd'hui confiante sur le fait que Chris Froome participe au Tour, estimant que celui-ci n'a rien fait de mal.
Oui, et de son côté, l'UCI, la Fédération Internationale de Cyclisme, ne souhaite pas s'exprimer sur cette affaire pour le moment. Elle devrait quand même le faire juste avant le début du Tour de France, prévu samedi. Mais son président, David Lapartien, s'est quand même exprimé sur un point. L'ASO a le droit de vouloir écarter Christopher Froome. Écoutez.
Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que cet article du règlement de l'épreuve est lui-même appuyé sur un article du règlement de l'UCI. Voilà, donc c'est une application aussi du règlement de l'UCI qui a été transcrit de manière volontaire par l'organisateur. Voilà, mais j'ai pas d'autres commentaires à faire sur cette disposition réglementaire qui existe dans le règlement du Tour de France depuis de nombreuses années d'ailleurs au demeurant.
On suivra les procédures, c'est la règle de base chez nous. Alors bien sûr que j'entends bien que tout le monde voudrait une décision la plus rapide possible et si possible dans le sens du jugement qu'il voudrait avoir. L'UCI sera d'autant plus forte qu'elle suivra ces procédures et sachez que l'UCI fait en sorte que ce dossier avance le plus rapidement possible.
Voilà, et on attend une réponse de la chambre arbitrale du sport maintenant. C'est elle qui rendra une décision définitive, probablement mercredi.
Alors le Tour de France toujours, mais sans maillot bleu, blanc, rouge cette année.
Et oui, un maillot réservé aux champions de France de cyclisme sur route. Et on le connaît, ce champion, c'est Anthony Roux, le coureur de l'équipe Groupama FDJ. Il a été sacré aujourd'hui à Mantes-la-Jaunie après une belle course. Pas de Tour de France pour lui donc, c'était prévu puisqu'il avait déjà participé au Tour d'Italie. Difficile d'enchaîner les deux. Anthony Roux s'est imposé tout à l'heure au sprint devant Anthony Turgis et Julien Alaphilippe. Et pour lui, c'était presque inespéré de remporter le championnat de France.
Après 11 ans de carrière, c'était derrière moi. Comme maintenant, c'était plus possible de gagner le titre de champion de France. J'avais laissé passer ma chance. Et aujourd'hui, franchement, c'était une journée parfaite. Je me sentais vraiment bien. Et franchement, quand je vois les derniers champions de France qu'il y a, des mecs comme Arnaud Demare, Turvichaud, porter ça sur des courses pro-tour et tout, je me rends pas compte. C'est magnifique. Donc, il y a trop de choses à côté qui symbolisent ce maillot. C'est... Un mois de juillet à la maison comme ça va être exceptionnel et j'ai hâte que les services courses m'envoient ce maillot pour pouvoir rouler avec à l'entraînement, ça c'est clair.
Anthony Roux, très heureux, le nouveau champion de France de cyclisme sur route.
Et donc on repart au Mondial, c'est bon pour la Russie, ça passe.
Et oui, on vous en parlait tout à l'heure, c'est une surprise, la Russie qualifiée pour les quarts de finale de la Coupe du Monde en battant un favori, l'Espagne, un match qui s'est joué au tir au but, un partout après le temps réglementaire, 4-3 après la séance de tirs au but. Le gardien russe Akinfeev, auteur de deux beaux arrêts, permet à ses coéquipiers de rester dans la compétition. Allez, on revient sur la belle victoire, là aussi, des Français hier sur l'Argentine, 4-3, un match exceptionnel, des buts exceptionnels aussi, comme celui de Benjamin Pavard. À l'entrée de la surface de réparation, le latéral français envoie le ballon dans la lucarne, le geste est magnifique, parfait. Et le lendemain, aujourd'hui, Benjamin Pavard peine encore à y croire, écoutez.
Depuis hier, je regarde sur internet mon but et voilà, j'ai pas l'habitude de marquer des buts comme ça, et je la prends vraiment bien et... c'est le but qui permet d'égaliser. Après, ça nous a donné aussi une bouffée d'oxygène et on l'a vu ensuite par voilà qu'on a on a enchaîné les buts et voilà c'est bien pour moi, c'est bien aussi pour l'équipe parce que voilà tout le monde me met en confiance, que ça soit les joueurs, les 23 ou le staff, tout le monde me met en confiance et je pense que ça s'est vu sur cette reprise.
Benjamin Pavard qui était chez nos confrères de Téléfoot ce matin. Benjamin Pavard, très remarqué sur le terrain hier, comme un autre jeune joueur français. Kylian Mbappé, lui aussi, a fait un très bon match, au-dessus techniquement, rapide, auteur d'un doublé. Une performance qui n'est pas passée inaperçue et qui a fait le tour des réseaux sociaux. Xavier Monferrand, bonjour.
Bonjour.
On l'a constaté, Kylian Mbappé a reçu beaucoup d'éloges après son match hier.
Ouais, forcément, Kylian Mbappé a marqué les esprits, a commencé par ses coéquipiers en équipe de France. Florian Thauvin a même cru le voir en scooter sur le terrain, tellement il allait vite. Ses adversaires argentins aussi lui ont rendu hommage à travers Jorge Sampaoli. Quand un joueur comme lui s'éclate comme il l'a fait, ça devient très difficile à expliquer le sélectionneur argentin. Nombreuses sont les anciennes gloires du ballon ébahies devant le talent du jeune attaquant français. Quel joueur pour Carles Puyol, un phénomène pour Franco Baresi, une superstar pour Alan Shearer. Mention spéciale à Alvaro Arbeola, pour qui Mbappé est comme le jeune Luke Skywalker. Tu sais que tôt ou tard, il dominera le monde. L'anglais Ian Wright lui fait dans l'autodérision. À 19 ans, moi, j'étais rejeté de Brighton, dit-il. Même le roi Pelé a adoubé Kylian Mbappé. Un doublé en Coupe du Monde si jeune, ça vous met en bonne compagnie, a-t-il dit, avant de lui souhaiter bonne chance pour la suite, sauf contre le Brésil.
Ouais, on le sait, la nuit a été très courte, évidemment, pour Kylian Mbappé, mais aussi pour les autres Français. Encore sur un nuage après la prestation d'hier. Sébastien Hazard, bonsoir. Vous suivez l'équipe de France en Russie. Comment ça s'est passé aujourd'hui? Est-ce que c'était encore l'euphorie chez les Bleus?
Ouais, toute la journée a été marquée par, a été parsemée de signes qui le montraient, que les Bleus étaient encore sur leur nuage. Clément, des petits signes, pas forcément des grandes démonstrations, mais des attentions montrant que ce dimanche n'est pas complètement un jour comme les autres. Tout à l'heure, à l'entraînement, des joueurs se sont applaudis en faisant des pompes, pas vraiment comme un Didier Deschamps, lui. Tout sourire s'est permis quelques frappes de balles, comme ça, en passant un peu plus tôt dans la journée. Antoine Griezmann, en évoquant cette rencontre face à l'Argentine, parlait de kiff d'être sur le terrain, de plaisir, avec une nuit, vous le disiez, finalement très courte, reconnaît l'attaquant tricolore Florian Thauvin.
Vous devez le voir sur ma tête, je suis un peu fatigué. C'était la fête, je pense que vous avez pu le voir sur certaines de nos vidéos qui ont été publiées sur les réseaux sociaux. On a fêté ça comme il se doit, c'est une victoire importante pour nous, une belle qualification. Tout le monde était heureux et fier. On en gardera un merveilleux souvenir et j'ai enregistré quelques vidéos dans mon téléphone.
Il y a quelques vidéos, hein, toujours des souvenirs, ça peut toujours servir. Sur les réseaux sociaux, justement, nous avons vu les Bleus chanter, danser sur le tarmac cette nuit avant de monter dans l'avion du retour. Une petite parenthèse, mais les Français sont bien conscients que vendredi, face à l'Uruguay, la marche sera encore un peu plus haute.
Et justement, on va en parler. Merci beaucoup Sébastien Hazard, vous êtes en direct d'Istra, le camp de base de l'équipe de France.
Et oui, maintenant la suite après l'Argentine, les Bleus pensent évidemment au futur adversaire.
L'Uruguay pour les quarts de finale, ce sera vendredi. Les Uruguayens qui ont battu le Portugal hier soir 2-1 en huitième de finale. Et cette équipe-là, elle va certainement poser de gros problèmes aux Français, Jérôme Val.
L'Uruguay version 2018 va donner beaucoup plus de fil à retordre à l'équipe de France que sa voisine Argentine. L'Argentine et ses largesses défensives, à l'inverse, la Céleste est réputée pour fermer les vannes et dans le rôle des éclusiers, Diego Godín, José Jiménez, les deux défenseurs centraux de l'Atlético Madrid. En Liga déjà cette saison, cette défense-là a été la moins perméable. Résultat, un seul but encaissé par l'Uruguay cette année, celui marqué par le Portugal hier soir à la suite d'un corner, 597 minutes d'invincibilité. Avec ce rideau, c'est compliqué pour l'adversaire d'aller plein axe, comme l'ont fait les Français contre l'Argentine. Il faudra être plus inventif. L'Uruguay, c'est solide, efficace et ça peut être par moments spectaculaire avec des attaquants décisifs. Comme à chaque fois, les joueurs du génial sélectionneur Oscar Tabarès vont tout donner, le décor est planté.
Et oui, les Bleus s'attendent à un match difficile. Les deux dernières rencontres entre l'Uruguay et la France en Coupe du Monde se sont terminées sur des matchs nuls, 0-0. À noter qu'hier soir, Edinson Cavani, l'attaquant du PSG, s'est blessé au mollet. Il a dû sortir du terrain et il est donc incertain face à la France vendredi. Je vous propose d'écouter là-dessus le sélectionneur de l'équipe de France, Didier Deschamps.
Faudra voir si une blessure musculaire, mollet.
C'est mal barré quand c'est le
mollet. J'espère pour lui, parce que sincèrement, c'est un joueur que j'apprécie beaucoup par rapport à ce qu'il fait sur le terrain et toute la joie qu'il communique aussi. C'est vraiment une bonne personne, mais voilà, il a un problème musculaire il y a 5 jours. On verra bien.
La France face à l'Uruguay en quart de finale de la Coupe du Monde, ce sera vendredi, coup d'envoi à 16h.
Un petit peu ironique là, non, Deschamps?
Un petit peu, ouais. Il revient. Bon, alors d'ici là, d'ici ce match vendredi, il y a évidemment d'autres huitièmes de finale à suivre, Yves. Ce soir, la Croatie affronte le Danemark, c'est à 20h. Et puis demain, deux autres matchs à suivre aussi, Brésil-Mexique et Belgique-Japon. L'Allemand Sébastien Vettel prend la tête du championnat du monde de Formule 1. Il devance Lewis Hamilton d'un petit point seulement. Le Britannique qui a abandonné tout à l'heure sur le Grand Prix d'Autriche à Spielberg. C'est Max Verstappen sur Red Bull qui remporte ce Grand Prix devant Kimi Raikkonen et Sébastien Vettel. Le Français Romain Grosjean termine quatrième.
Et c'est une course spectaculaire, celle-là, qui a démarré ce matin.
Oui, un tour du monde en solitaire, sans escale, sans assistance et sans nouvelle technologie. Bienvenue dans la Golden Globe Race. Une course partie ce midi des Sables d'Olonne avec 18 bateaux, 18 candidats pour 250 jours en mer. Et dans cette course, Yves, oubliez les GPS ou les ordinateurs, il n'y en a pas. On se dirige seulement avec les compas ou les sextants, comme avant. Les conditions de navigation de 1968, année de la première édition de ce tour du monde. Et partir à l'aventure comme ça, presque sans rien, c'est ce qui a plu à Jean-Luc Van Den Hyde. C'est l'un des quatre Français participants.
On va faire comme avant, c'est-à-dire quand il y a du soleil, ben on arrive à descendre le soleil avec ce sextant sur l'horizon, à mesurer l'angle qui existe entre le soleil et l'horizon, et du coup à savoir où on se trouve sur une droite. C'est là aussi un retour à l'ancienne, mais c'est pas le seul. On va pas avoir de fichier météo, donc faut regarder les nuages. Et donc on va faire notre route comme ça. C'est rigolo quoi, hein. Plus rigolo que d'appuyer sur un bouton de routage et puis d'avoir une petite flèche qui part et qui trouve la route optimisée.
Et cette course, elle a été gagnée par le Britannique Robin Knox-Johnston pour la première édition. C'était en 1968. Il a mis 313 jours pour faire son tour du monde. Andy Murray, forfait pour Wimbledon, on l'a appris cet après-midi. Le tennisman écossais a subi une opération à la hanche. Il revient, mais il n'est pas prêt, dit-il, pour ce grand tournoi qui commence demain. Ce sera un Wimbledon sans Andy Murray, donc. Mais les autres grands tennismen de la planète seront bien là. À commencer par Rafael Nadal, l'Espagnol, numéro 1 mondial. Le Suisse Roger Federer, lui aussi, sera bien là pour défendre son titre et il reste favori, Georges Omzi.
Il vient certes de concéder à nouveau sa première place mondiale à Rafael Nadal, mais cela ne change rien aux affaires. Roger Federer sera une fois encore le grandissime favori à sa propre succession sur l'herbe de Wimbledon, où il a arraché l'an dernier son 8e titre, un record. La direction de Wimbledon ne s'y est d'ailleurs pas trompée en désignant tout naturellement le Suisse première tête de série du tournoi, contredisant de ce fait l'ordinateur de l'ATP. Car à presque 37 ans, Federer semble avoir arrêté le temps. Victorieux en janvier à l'Open d'Australie de son 20e titre du Grand Chelem, le Suisse n'a rien perdu de sa soif de titres et de records et il continue de pratiquer un tennis digne de ses plus belles années. Comme l'an dernier, il a choisi de faire l'impasse sur la saison sur terre battue afin de se présenter dans les meilleures dispositions sur le gazon anglais. Demain, sur le coup de 15h, heure française, Federer foulera une nouvelle fois le Center Court pour entamer la défense de son titre avec une émotion intacte.
Et il sera face au Serbe Dusan Lajovic. 7 Français sont aussi à l'affiche dès demain à Wimbledon avec un match entre Gaël Monfils et Richard Gasquet. Lucas Pouille, le numéro 1 français, sera lui opposé à l'américain Denis Koulda.
C'était le journal des sports de Clément Comte sur France.